RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Si vous voulez de la discussion ou du débat, les GG sont là pour ça. Tous les jours, de 9h à midi, en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Aujourd'hui, nous sommes avec Maître Sandrine Pégan, avocate, avec Zora Bitton, cadre de la fonction publique et le consultant juridique, l'homme de Dunkerque, Antoine Dierz. Et on accueille notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Maître Olivier Pardot, bonjour.
Bonjour.
Avocat de la famille de Sarah Halimi. On va rappeler, en 2017, Kobili Traoré, roué de coups et défenestré Sarah Halimi, 65 ans, en criant à la Ouakbar. Dans cette affaire, les experts avaient conclu à la bouffée délirante au moment des faits. Il n'y avait pas eu de procès. Mais vous dites, l'affaire n'est pas terminée.
Pourquoi elle n'est pas terminée?
Parce que nous avons des éléments nouveaux. D'abord, vous l'avez dit, c'est une des affaires les plus terribles. Moi, je me suis plongé dans le dossier depuis près de un an avec mon cabinet, et les images sont terribles. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été qu'assassinée, elle a été torturée, elle a été violentée, elle a été jetée vivante, défenestrée vivante, alors qu'elle se débattait, qu'elle faisait tout pour vivre. Et la cour d'appel, d'abord le juge d'instruction, la cour d'appel ont considéré que parce que Traoré avait pris une consommation excessive de cannabis, eh bien, il y avait une abolition du discernement.
Bouffée délirante, c'est tout ce que le monde, ce qu'on avait.
Bouffée délirante, ça veut dire que au moment des faits, il était, délirant. Et
donc, il n'y a pas eu de procès.
Non, il n'y a pas eu de procès.
Il a été interné dans un hôpital psychiatrique.
C'est très intéressant. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Puis, quand vous êtes à l'hôpital psychiatrique, il faut que vous soyez malade. Et au bout d'un moment, on vous met dans un hôpital un peu plus classique. Dans l'hôpital un peu plus classique, vous avez des permissions de sortir. Et vous savez ce qu'il a fait pendant les permissions de sortie, récemment? Il est allé racketter, violenter une personne, parce que comme il faisait du trafic de crack, qu'il consommait également, et que cette personne n'avait pas payé, il est allé lui casser la figure. Voyez-vous? Et il a été à nouveau poursuivi par la police, puis par la justice, et il a dit peut-être qu'il était également bouffé délirante. Et là, on a dit, mais pas du tout,
vous n'avez pas de pathologie. Là, ça n'a pas fonctionné.
Là, ça n'a pas fonctionné.
Oui, mais on sait que c'est un marlou, de toute façon. On sait que c'est un petit voyou.
Oui, oui. Alors, c'est pas un petit voyou, voyez-vous.
Non, mais attendez.
C'est pas un petit voyou, c'est un assassin.
Par rapport au nouveau fait qu'il vient de commettre. C'est juste par rapport à ça, on s'attendait.
Un antisémite, mais et son antisémitisme, d'ailleurs, perdure. Parce que quand il est à l'hôpital, il refuse de se faire suivre par les infirmières parce qu'elles sont de confession juive. Mais c'est pas ça, ça, tout ça, c'est.
Mais il coche toutes les cases, il est bien.
Hein?
Il coche toutes les cases, ce personnage.
Il coche toutes les cases, mais il n'y a pas eu de procès. Et la famille de Madame Halimi, qui était une sainte femme, n'accepte pas. D'ailleurs, comme toute une partie des Français, au-delà de la communauté juive. Et donc, on a cherché. Et il a fait tout cela, toute cette torture de Madame Halimi, il a fait ça en public, parce qu'il était sur le balcon, il y avait du monde autour. Et il y a une personne, un voisin, qui a enregistré ce qui se passait. Ça, c'est le premier élément. Qui a enregistré, et c'était dans le dossier d'instruction, sauf que c'était inaudible. Et nous, on a fait travailler un expert près de la Cour de cassation, qui avait des techniques modernes, est arrivé à établir ce qu'il disait. Et ce qu'il disait n'était pas du tout délirant. C'est-à-dire qu'il était dans une démarche politique.
Et qu'est-ce qu'on entend?
Alors, on entend, c'est pour la cause palestinienne, c'est pour Abu Mazen. Abu Mazen, c'est le nom
de Yasser
de guerre, de Mahmoud Abbas. Et pardon de le dire, celui qui connaît le nom d'Abu Mazen est déjà quelqu'un qui a une conscience politique forte. Et il disait pour les Palestiniens, parce que comme il avait du public autour, des voisins qui entendaient, des gens qui étaient là, il tenait un discours. Et ce discours n'était pas un discours de bouffée délirante. La bouffée délirante, c'est-à-dire vous passez n'importe qui est là, vous allez le massacrer parce que vous êtes là. Là, il a choisi la juive, tout de suite. Déjà, non, il y avait un problème.
Pardonnez-moi, mais on peut être drogué et antisémite.
Oui, ah. Mais vous pouvez pas avoir une conscience d'acte antisémite quand vous êtes, quand vous pouvez pas passer à l'acte. Il y avait plein de personnes, il y avait d'autres voisins, il est allé la chercher. Mais j'ajoute un deuxième élément qui est encore plus, plus parlant, et Sandrine, je suis sûr, va l'entendre. Oula. Avec sa qualité de juriste. Alors, on admettra que la bouffée délirante et la préméditation, ça colle pas. Vous pouvez pas préméditer et être en bouffée délirante. À l'occasion de la commission d'enquête parlementaire qui a eu lieu après, qui était une commission parlementaire extraordinairement discutée, disputée, comme toutes les commissions parlementaires, il y a une des voisines de Traoré et de Madame Halimi. Traoré et Madame Halimi étant eux-mêmes voisins, qui est policière. Elle a tenu des propos ambigus en disant que son propre frère, le frère de cette policière, ce soir-là, exceptionnellement, très exceptionnellement, ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas quitté le domicile, est allé demander, alors est-ce elle, est-ce lui, de dormir chez sa sœur. Sa sœur, elle se trouve à 6 appartements, 6 blocs de maison, si vous voulez, de Traoré et d'Halimi. Et elle dit, je me demande pourquoi, c'était quand même très exceptionnel, etc. Cette dame a fait des confidences à William Attal, un parent de Madame Halimi, en lui disant, en fait, il savait parfaitement que Traoré allait passer à l'acte, on est la veille, allait passer à l'acte vis-à-vis de Madame Halimi. Donc comment voulez-vous mettre bout à bout une préméditation, c'est-à-dire l'idée que je vais...
Et la bouffée délirante. Mais alors, comment on obtient un nouveau procès? Comment ça fonctionne? Alors, ou un procès, puisqu'il y a un procès.
D'ailleurs, je dis, il n'y a pas eu de procès.
Là, c'est la réouverture de l'instruction pour charge nouvelle.
Voilà. Merci. Vous connaissez l'affaire Epstein?
Oui.
Dans le cas de l'affaire Epstein, la partie française avait été clôturée. Il y a eu les événements liés à M. Jacques Lang. Qu'a fait le parquet général? Il a dit, j'ai des éléments nouveaux, je réouvre l'instruction. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au stade de l'instruction, vous rendez toujours une décision en l'état. C'était en l'état de ce que vous savez, de ce que savaient
les
experts.
S'il y a des choses nouvelles.
S'il y a des choses nouvelles, le parquet général, alors je ne vous dis pas que jamais, j'ai été magistrat, jamais vous avez envie de réouvrir quelque chose qui est clos, qui a donné tellement de
problèmes. Vous reconnaissez un peu vos fautes aussi.
Mais en fait, on leur donne des éléments nouveaux. Moi, je suis pas...
Vous ne voyez pas pourquoi ils ne pourraient pas rouvrir.
Voilà. C'est-à-dire que moi, je leur dis pas, vous avez mal fait leur travail, vous êtes pas bon, vous avez pas fait ça. Moi, ce qui m'a toujours choqué, et Sandrine l'a dit très bien, et Zora aussi, c'est-à-dire comment voulez-vous dire dans la même phrase, je suis antisémite et j'ai une bouffée délirante. Déjà, c'était...
Zora Bittan.
Alors, moi, j'ai suivi de près cette affaire de Madame Halimi. D'abord, enfin, moi, personnellement, je pense que c'est l'État, en tout cas la justice, qui a eu une bouffée délirante, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, en février 2026, ce criminel fait un homejacking, donc il a toute sa tête pour consommation de crack et que c'est un délinquant notoire, c'est ce qui est gênant dans cette affaire, c'est l'effacement, le déni de l'antisémitisme, c'est d'avoir tenté de le mettre en second plan et d'avoir maquillé ça en bouffée délirante pour retrouver ensuite dehors quelqu'un qui remet qui recommet un autre acte. Et c'est toute la question de la République et de son rapport avec l'antisémitisme qui, à chaque fois, on se pince le nez, on fait comme si on n'avait pas vu et on tente à chaque fois d'essayer de trouver des biais et des sorties pour ne pas qu'il surgisse dans la société. Au-delà de l'affaire et donc le dossier, je ne suis pas avocate, mais le fait qu'il soit réapparu dans un acte de délinquance va permettre de qualifier... Oui, mais quand même, je veux dire, tu peux pas être dans une bouffée délirante qualifiée comme celle-là et
c'est très complexe et vraiment
retrouver.
Il y a eu des collèges d'experts.
Mais on tue pas quelqu'un en disant Allahu Akbar pour rien. Enfin, voilà, les crimes, il y en a tous les jours, les narcotrafiquants, etc. Quand ils se mettent des coups de calache entre eux, ils s'accrient pas à la Wagba.
D'accord, mais là, du coup, il est où Kabylie Traoré, là, maintenant?
Il est en détention pour
l'homme-jacking.
Pour cette nouvelle affaire. Ce coup-là, il a été en détention. Et mais vous dites une chose très, très, très juste, parce que c'est le troisième élément. C'est que, voyez-vous, les experts, ils ont en main, le collège d'experts, comme vous dites, ils ont en main le fait qu'il ait pris du cannabis.
Ben oui.
Et ils se disent, c'est leur raisonnement juridique, il est particulier. Ils se disent, bon, quand vous prenez du cannabis, vous n'êtes pas censé savoir que ça va vous désinhiber au point de pouvoir passer à l'acte. C'est ce qu'ils disent.
Étonnant, ouais.
En revanche, la jurisprudence de la Cour de cassation vous dit quand vous prenez du crack, là c'est différent parce que le crack, vous ne pouvez pas ignorer.
Que ça vous défonce, quoi.
Que ça vous défonce.
Oui, mais c'est pas
et, et qu'est-ce qu'on a comme nouveaux éléments toujours par cette policière? C'était qu'il est consommateur de crack. Il est tellement consommateur de crack que là, il a été pris pour violence sur du crack. Voyez-vous.
Mais alors c'est curieux parce qu'il prend du crack, il tabasse quelqu'un. Là, on estime qu'il n'y a pas de bouffée délirante, il va en prison. Il prend du cannabis qui est moins fort.
Il
tue quelqu'un et là, il a une bouffée délirante. Je comprends pas bien le raisonnement.
Voyez-vous là. Voyez-vous, Olivier. La justice est rendue au nom du peuple français, oui, elle est rendue en votre nom. Ouais. Et donc, elle vous dit quand vous prenez du cannabis, ça va. Vous pouvez avoir une bouffée délirante et être sorti. Quand vous prenez du crack, bah, ça va plus. Et je dis une chose, parce que j'ai promis de le dire, si vous m'autorisez.
Allez-y.
C'est que ce sont des expertises. La famille Halimi, elle n'est pas riche. Hein. Nous, on se débrouille. Mais les experts, on en a besoin. Et c'est pour ça qu'on a lancé sur Allo Don la possibilité de les aider avec défense. Halimi, défense
Parce que
Halimi.
C'est à la famille Halimi de payer les experts.
Ah ben évidemment, parce que pour apporter les éléments nouveaux, on fait nous-mêmes l'enquête.
Mais l'élément nouveau, surtout le plus probant, c'est ce qu'il dit quand il est sur le balcon avant de la défenestrer.
Non, mais ça, c'est ce que tu crois, toi, que c'est probant.
Oui.
Est-ce que tu crois quoi?
Ah, bah, c'est ce que.
C'est ce que tout le monde pense. Pardon, les arguties de juriste. Sur cette histoire, vraiment, juste un mot.
Et après,
moi, je ne suis pas avocat, je ne pratique pas le droit pénal. Je suis juriste, mais pas de droit pénal, tu vois. L'affaire est horrible, sordide, on est tous écœurés. Et ce qui ressort de la justice, c'est que le mec s'en sort, qu'il est libre, qu'il peut même recommencer. Et là, toi qui es un brave citoyen, te dis, mais enfin, on est dans quel pays? C'est-à-dire qu'il y a un loup, il y a un méchant dans la société, un mec qui fait du mal, et on est incapable de le mettre hors d'état de nuire.
Oui, mais en France, on ne juge pas les fous, tu le sais.
Pardon, ça ne marche pas.
En France, on ne juge pas les fous.
Et donc, oui. Mais pardon, mais.
Et donc, il a été reconnu irresponsable.
Même si on ne le juge pas, on le met hors d'état de nuire. C'est-à-dire qu'il manque un truc.
Il a été à l'hôpital psychiatrique et il sait quoi, il y a eu l'intervention du préfet pour
qu'il sorte. C'est pas possible de laisser le loup en liberté.
Quand vous allez à l'hôpital,
on ne protège pas la société.
C'est pas. Les médecins.
Il n'a pas du tout été soigné.
Bah, on se demande comment il a été soigné, puisque les psychiatres, ils ont besoin que le garçon adhère. À quoi il adhère? À quel traitement il adhère? Et je vais très vite. C'est-à-dire que c'est pas que la famille Halimi, c'est pas que les juifs, c'est qu'il a fait un pied de nez à la justice. Ouais.
Il a trompé la justice.
Il a fait un pied de nez à la justice.
Moi, pardonnez-moi, mais j'ai pas la même lecture. Vous savez, confrère, que je respecte tout votre travail, je respecte votre carrière. Bon, je suis là aussi pour un peu assurer le contradictoire. Bien évidemment que je ne cautionne en aucun cas les actes atroces de M. Traoré, c'est clair. Oui. Mais là, j'ai l'impression que vous faites un peu de démagogie judiciaire. Je vous explique. Parce que les éléments nouveaux que, soi-disant, vous voulez apporter pour la réouverture de l'instruction pour charge nouvelle, ben pour moi, c'est un peu dépourvu de pertinence. Pourquoi ? Vous parlez de l'audio. L'audio, ça change rien par rapport à l'antisémitisme. Il a été reconnu. Vous parlez du crack. Est-ce que vous réussissez à démontrer une causalité directe et certaine entre la bouffée délirante et le fait que ça a été prévisible? Non. Donc en fait, j'ai un peu l'impression que vous vous servez un peu de tous ces éléments périphériques pour faire croire un peu à la famille. Et pardon si en tout cas j'estime et que j'ai ce regard-là sur vos moyens de défense. Et pour moi, c'est vraiment dépourvu de pertinence.
Alors,
le caractère certain.
La différence entre vous et moi, c'est que vous connaissez pas le dossier.
Intéressée et surtout je connais très bien l'avocat de M.
Vous connaissez pas les éléments. Vous connaissez pas les éléments nouveaux qui sont dans le dossier que j'amène. C'est pas. Moi j'ai pas fait un truc en disant je pense que c'est pas bien et qu'il faut réouvrir. C'est-à-dire que je suis allé au bout de l'analyse. C'est-à-dire que j'ai pris des expertises. Et j'ai dit que disent les experts. Ils disent ok. Il était antisémite, ça change pas qu'il pouvait avoir une bouffée délirante.
Bah oui.
Dont acte.
Ça c'est vrai.
Ok. Mais entre être antisémite et avoir une pensée politique construite avec des références précises et faire l'acte là, c'est une différence volontairement et avec une conscience politique. Vous pouvez pas avoir une conscience politique au moment de l'acte et être dans la bouffée délirante.
Mais parce que sinon vous allez dire c'est une expertise qui est privée, c'est une expertise que vous avez payée vous qui n'est pas contradictoire.
L'enregistrement, je l'ai versé au dossier.
Voilà, ces éléments vous les avez versé au dossier.
Bien sûr.
Donc vous espérez une décision du parquet quand alors?
Moi j'espère que le parquet général, parce que c'était au niveau de, va examiner. Moi, tout ce que je lui demande, c'est pas de condamner, c'est de regarder, d'entendre la policière qui n'avait jamais été entendue. Enfin, vous n'entendez pas la voisine qui a des informations précises à vous donner. Entendez-la. Après, vous faites-vous votre opinion. Regardez s'il était consommateur de crack au vu des nouveaux éléments ou s'il n'était pas.
Mais les enregistrements audio, ils n'avaient pas été dans
la. Ils étaient dans le dossier, mais il y avait écrit inaudible.
Oui, mais le point.
Sauf qu'ils sont audibles. Bah, on entend audibles, précisément.
Ils sont
ce
audibles
voilà.
Par les techniques nouvelles.
Aujourd'hui.
Vous savez, c'est comme. Aujourd'hui, c'est comme
8 ans, 9 ans après,
c'est
on
comme l'ADN.
À écouter,
ouais. C'est comme l'ADN. C'est-à-dire qu'il y a des tas de crimes qu'on n'a pas résolus parce qu'il n'y avait pas d'ADN. Quand vous avez de l'ADN, c'est même pas un cold case parce que c'est trop récent.
Mais ça ne va.
Mais c'est quelque chose qui est ça. Et moi, tout ce que je demande, c'est qu'il y a un procès. Enfin, c'est une des affaires
les
plus
horribles. Mais le point crucial, c'est pas l'antisémitisme, c'est de savoir s'il était dans capacité d'être discerné au moment des faits.
Pourquoi refuser le procès, ça, que je le comprends pas.
Pourquoi refuser?
On a
dit qu'il était irresponsable pénalement parce qu'il y a eu deux collèges d'experts qui ont estimé que justement il y a eu une abolition du discernement. On parle pas
d'altération. D'abord, il y a trois experts. Il y en a un qui a dit qu'il y a eu.
C'est parce que j'ai dit deux collèges d'experts et un qui a.
Limitation de son discernement, ils n'étaient pas là au moment des faits. Ils n'avaient pas ces éléments. Peut-être que ces experts, parce que imaginez-vous que j'ai quand même travaillé avec des experts psychiatriques qui disent très simplement, si on avait su, nos conclusions n'auraient pas été la même. Ils ne diraient pas qu'il n'y avait pas un problème de discernement. Mais peut-être pas une abolition totale. Parce que l'abolition totale, ça veut dire que vous n'êtes absolument pas conscient de ce que vous êtes en train de faire.
Merci.
Il y a tellement de choses à dire aussi.
Venez au procès. Prenez la défense de Traoré. Je pense que monsieur Biknik sera ravi de vous avoir à vos côtés. Et là, on aura un procès.
Si procès il y a, en fonction des nouveaux éléments. C'est ce que l'on va suivre. Merci maître Olivier Pardo d'être venu nous parler de ces nouveaux éléments.
Merci à vous de m'avoir reçu. C'est important que vous fassiez entendre cette voix-là, parce que vous aurez peut-être remarqué que souvent la justice est à l'écoute aussi de ce que pensent les gens, de ce qu'imaginent les gens, et vous avez une émission qui a cette caractéristique d'être très populaire, et moi ça m'importe que le peuple français s'intéresse aux affaires judiciaires.
Merci maître Olivier Pardo. Suite des GG dans un instant, direction RMC, RMC Story, il est 11h20. La gare de Lyon sera totalement fermée le week-end du 1er mai. Oui, parce qu'il va y avoir des travaux. Ah ben, on vous raconte ça et vous réagissez avec nous au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Sandrine Pégan, Antoine Niers et Zora Bitant. Voilà nos trois GG. Il est 11h25. On va regarder les futurs travaux de la gare de Lyon. En fait, la gare de Lyon va être fermée à partir du jeudi 30 avril 20h30 jusqu'au dimanche 3 mai à la mi-journée et il n'y aura pas de train.
Alors c'est vrai, quand on a vu cette info, on se dit c'est un poisson d'avril, parce que c'est le week-end du 1er mai, sachant que le 1er mai c'est un vendredi, donc c'est un week-end de 3 jours, il y aura beaucoup de déplacements, et puis c'est la fin des vacances scolaires, notamment pour la zone de Paris et Île-de-France. Et pourtant, c'est ce jour-là qu'il a été décidé de fermer totalement la gare, donc du jeudi au dimanche à la mi-journée. Alors on pourra peut-être prendre un train pour entrer le dimanche soir, parce qu'il y a un chantier historique en ce moment qui concerne la gare de Lyon. Alors bien sûr, c'est pas le chantier en question qui est remis en cause. Il faut remplacer les deux postes d'aiguillage stratégiques de cette gare qui date des années 80. Donc il était temps de les changer. Ça mobilise quelques 500 agents et experts de la SNCF Réseau qui vont être donc mobilisés pendant ces 72 heures en continu. Mais la vraie question, c'est pourquoi avoir choisi ce week-end-là.
Et là, il n'y a
aucune explication. Visiblement, là, on peut travailler le 1er mai. Mais pourquoi est-ce que, alors, ça pose la question de savoir, est-ce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des gens, quand même, que ça va beaucoup impacter? Parce que la gare de Lyon, c'est pas seulement les TGV, les trains, c'est aussi les RER, A, D, c'est le métro, donc tout ça va être perturbé. Mais
justement, Olivier, c'est parce que les RER vont aussi être impactés qu'il vaut mieux faire ça durant un week-end qu'en pleine semaine.
C'est pas le week-end du 1er mai.
En fait, moi j'adore, c'est que à chaque fois que la SNCF fait des travaux, on en a besoin, hein, des travaux sur les infrastructures. Si on veut que ça tourne,
il y a pas de bonne date.
Il y a beaucoup de travaux en retard. Hein. On a un retard sur tout l'entretien, mais il y a pas de bonne date. Forcément, le week-end. Ah, mais je vais partir en week-end.
Il y a des meilleures dates.
Bien sûr. Bah oui, il y a des meilleures dates.
Donne-moi une meilleure date. Le 15 août. Ah, mais non, mais c'est
pas le 15 août. Mais pas les départs en vacances. Des retours de vacances. Départs d'un week-end. Le week-end du 1er mai, c'est l'un des week-ends noir de monde dans les gares et sur les routes. Tu fais ça au mois de novembre, hors vacances scolaires, hors 11 novembre.
De quel pont? Quel pont?
Là, tu fais pas un pont pour que tu veux faire un pont.
Mais pourquoi tu veux encore impacter les Français?
Pour les travaux, a priori, ils ont besoin de 3 jours.
Tu fais faire 3 jours en semaine, un mois de novembre.
On n'est pas obligé de bloquer un axe aussi stratégique.
Où tout le monde va prendre le RER pour aller bosser à Paris, tu peux utiliser.
Perturber le train du quotidien.
Perturbe le train du quotidien. Pardon, mais c'est trop facile de tomber tout le temps sur les
SNCF. Toi, tu défends ce.
Moi, je dis. Faites les travaux, acceptons qu'il y ait des travaux, parce que sinon tout le système va être en rate tout le temps si on n'entretient pas.
Maître Pégan.
Bien sûr que c'est pour moderniser, donc on n'a pas le choix, on est d'accord. Mais vraiment, pour moi, la question du timing, c'est contestable. Je veux dire, c'est le week-end prolongé du 1er mai, 3 jours. Donc là, on partirait vendredi, samedi, dimanche. C'est le week-end le plus impacté au niveau de la forte affluence par rapport à toute l'année. Donc, ok, très bien, on doit moderniser. Mais pourquoi tu veux encore que ce soit les Français qui pâtissent de ça, donc on va pas pouvoir partir. Et j'espère surtout que la communication en amont, elle est bien faite. Là, on en parle là.
60% des trains qui sont maintenus sur les autres gare.
Donc,
la gare de Lyon, vous allez aller à Montparnasse pour partir.
La gare de Lyon, c'est une des gares les plus grosses de France.
Des gens qui ne travaillent pas, alors que si tu le fais en semaine, tu vas pénaliser des gens qui travaillent.
Oui, c'est ça le choix. Déplacé sur Montparnasse, Paris-Est, Charles de Gaulle TGV, Marne-la-Vallée, Chessy, Paris-Pont-de-Ringis et Versailles-Chantier. Voilà vers les gares vers lesquelles le trafic est déplacé.
Mais la question, c'est là, oui, je redis la même chose que tout à l'heure, mais c'est le 1er mai, d'un seul coup, travailler ne pose plus de problème. Puisque apparemment Binet nous explique que c'est un gros problème de travailler le 1er mai. Là, ça devient plus un problème.
Pas pour les fleuristes.
Et en même temps, le choix du 1er mai, c'est le choix des départs de beaucoup de gens en province ou en tout cas qui voyagent. Mais c'est vrai.
T'as envie de souffler un peu quand même.
Si tu fermes en semaine, tu vas pénaliser certainement plus de gens.
Mais non, tu sais pourquoi Zora? Parce qu'il y a le télétravail, par exemple. Tu vois. Après, c'est pour les patrons de mettre en place ça de façon à ce que, comme il y a une communication qui est faite en amont, tu peux t'organiser. Mais là, c'est les vacances. On a besoin de souffler. On travaille tout le temps.
La réponse télétravail, elle est pour moi déconnectée. Ceux qui prennent le RER qui arrivent de banlieue, c'est souvent pour faire des métiers manuels, le ménage, et tu peux pas répondre à la dame qui prend le RER à 5h du matin pour venir nettoyer les bureaux dans Paris. Ah,
c'est pas elle que s'adresse Sandrine.
Oui, je m'appelle.
Mais c'est pire de toucher le train du quotidien.
Il faut mieux sacrifier un week-end férié. Un week-end de travail.
Oui, exactement. J'ai entendu une Parisienne. Pardon, c'est surtout pas une agression.
Attention,
on a besoin de prendre l'air. C'est notre week-end. Il faut qu'on sorte.
On avait qu'à le faire
sur les gens qui vivent à Paris.
On avait qu'à le faire.
Il faut qu'ils sortent de cet enfer.
Oui, c'est vrai.
Et vous préféreriez pénaliser les gens qui viennent travailler tôt le matin en prenant le
RER? Non, parce qu'on peut s'organiser autrement.
Non, en France, il y a quand même des retours de vacances scolaires aussi. Antoine, il n'y a pas les gens qui
vont rentrer. Ils vont rentrer.
Dans quel état?
On est passé par Montparnasse, chérie, tu te rends compte? On devait arriver à Gare de Lyon. Non, mais c'est terrible.
Ils
m'ont gâché le week-end.
Les gens vont prendre la voiture.
Eh ben voilà.
C'est tout.
Avec du carburant à plus de 2 euros, Antoine. Donc c'est le pouvoir d'achat des Français qui va être grévé.
Non, sérieusement,
ça tombe pas bien. Non, en fait, ça tombe pas bien avec la crise du carburant. Pardon, ça tombe pas très bien. Au moment où les Français arbitrent, ils se disent, on a plus trop les moyens de prendre notre voiture, le train c'est moins cher, etc. Mais voilà.
Non, en train de me dire que c'est les pauvres qui vont prendre le train pour aller à Arcachon le 1er mai, là, mais non.
Alors que ça coûte une fortune. Mais en dehors du week-end prolongé, il y aurait eu une lisibilité des alternatives.
Les fleuristes qui ne pourront pas travailler le 1er mai, parce que Sophie Binet ne veut pas qu'ils travaillent le 1er mai, les fleuristes.
Il faut l'appeler pour lui dire qu'il y a des agents SNCF qui vont travailler le 1er mai.
C'est probablement des entreprises.
Et dommage, parce que du coup, Castex ne pourra pas venir nous servir nos plats pendant ce week-end.
Non. C'est l'occasion de rappeler qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui travaillent le 1er mai. Le rappeler à ceux qui nous expliquent que le 1er mai, c'est une vache sacrée.
Les voyageurs du quotidien, c'est 700 000 personnes.
Sur cette gare de Lyon?
Sur cette gare et les axes qui sont autour de la gare de Lyon.
Voilà.
C'est 700 000 personnes en semaine, par jour. Et donc là,
inimaginable de les déranger.
Tu dis que si tu mets ça sur le week-end du 1er mai, as les travailleurs qui ne sont pas là, bien sûr. Donc ça enlève du monde. Et que tu limites le risque avec juste ceux qui partent en week-end.
J'ai un témoignage, celui d'un certain Didier Giraud, que vous connaissez. aucune communication en amont.
Ah, ben voilà, tu vois, c'est ce que je disais.
Il vient à la gare de Lyon. Vous savez, quand il vient faire les grandes gueules, il prend son train, et il arrive à la gare de Lyon. C'est Chalon, hein, sa gare. Ouais. Il fait Chalon-Paris. Aucune communication en amont. Je m'en suis rendu compte cette semaine en faisant mon billet. Le Creusot, pardon. Je me suis rendu compte cette semaine en faisant mon billet à la borne. Donc en fait, c'est un problème de communication. Donc les gens vont quand même se retrouver piégés.
On a Jérôme.
Son billet, il arrive dans une autre gare, c'est tout.
Jérôme qui veut intervenir. Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous.
Bienvenue Jérôme, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah moi je suis à peu près du même avis qu'Antoine, c'est-à-dire que j'imagine que la CNTF a dû regarder ses plannings et ses taux de fréquentation pendant ces périodes-là. Et s'ils ont choisi ce 1er mai-là, c'est parce que ça devait être le week-end où il y avait le moins de monde sur le trafic. De toute façon, et comme je dis, vous peut-être mieux me déranger quel pain. Faire perdre une heure à des vacanciers qui reviennent de vacances ou qui partent en week-end ou qui reviennent de week-end, que de faire perdre deux heures à des travailleurs un lundi, un mardi ou un mercredi, quoi. Donc, de toute façon, faut que ça soit fait. La gare, ça ferme jamais, en fait. Ça ferme à 1h du matin et ça réouvre à 5h. Donc, de toute façon, il faut bien le faire à un moment ou à un autre. Et comme tout le monde veut de la sécurité, tout le monde dit, la SNCF fait pas son travail, on se retrouve par les rails. J'imagine que quand on a un aiguillage en pleine gare de Lyon avec le nombre de trains qui passent par jour, vaut mieux. Ouais,
là, il y a nécessité de les remplacer, c'est sûr. Ils datent des années 80. Donc. Oui.
Ouais. Voilà, quoi. Donc, un aiguillage, ça fait 20 mètres de long. C'est un sacré boulot. Moi, j'ai un père qui était cheminot. Je me suis intéressé un peu. C'est pas, on change pas trois fils et un bout de rail, quoi. Donc, il faut le faire. Donc,
vous dites, faut mieux embêter les vacanciers que les travailleurs, quoi.
Bah oui. On va dire, c'est le moins pire, quoi. Mais j'imagine que, Bruno serait là, il vous le dirait, mais j'imagine que la CNCF a dû réfléchir, a dû regarder son planning et se dire, c'est le week-end où il y a le, entre guillemets, le moins de monde, même si c'est un week-end de 1er mai férié, et se dire, tant pis, on sacrifie ce week-end-là, mais il faut le faire de toute façon, donc, vaut mieux sacrifier, moi, je crois qu'il vaut, je préfère savoir sacrifier trois jours de circulation que d'avoir un train qui arrive à l'envers en pleine gare de Lyon, quand on voit le trafic.
Et je pense qu'en plus, c'est plus cher de faire travailler les ouvriers le 1er mai. Si la SNCF devait avoir fait un calcul uniquement économique, ils auraient pris une autre date où c'était moins cher.
Ils seront payés double.
Les nombreux ouvriers qui vont être sur le
la sécurité n'a plus de prix au bout d'un moment, quoi.
Est-ce que c'est sur la base du volontariat?
Quand on voit les drames qu'il y a sur certains endroits ou des lignes qui sont mal. Moi, je préfère savoir que ma mère prend souvent le train à Gare de Lyon pour aller à Grenoble. Je préfère savoir que l'aiguillage marche bien, qu'il y a un besoin de mettre des cales pour que ça tourne, quoi.
Jérôme, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci Jérôme. Bonne journée du côté de la Bretagne, du Morbihan. Alors, pas de train en gare de Lyon le week-end du 1er mai. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on a affaire à des génies ou vous comprenez, comme le dit Antoine? On va voir. Est-ce que c'est des génies? Vous mettez oui de manière ironique à 66%. Antoine, tu recueilles 33% des suffrages.
Avec 33%, il passe au deuxième tour. Là.
J'ai fait le maximum de qualité. Dans un instant, des parents qui légitiment encore la fessée. Est-ce que ça vous choque? C'est au 32-16 qu'on en discute avec les grandes gueules. Il est midi moins 25. Vous êtes sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
J'ai les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules qui vous attendent bien sûr au 32-16 là avec Sandrine Pégan, avec Zora Bitant, avec Antoine Diaz pour parler de la fessée. On parle de la fessée, pourquoi? Parce qu'on a un tiers encore aujourd'hui des parents qui légitiment la fessée alors que ça s'apparente à un acte de violence sur les enfants et que c'est interdit. Est-ce que vous comprenez? Ou est-ce que vous êtes choqué? 32-16 pour le dire aux grandes gueules.
Oui, c'est interdit par la loi depuis plusieurs années, mais visiblement, il y a des parents qui s'en fichent, et puisque 36% d'entre eux interrogés dans cette étude légitiment toujours la fessée à des fins éducatives. Selon l'étude, un parent sur cinq a donné une fessée ces 12 derniers mois, et 7 parents sur 10 admettent avoir déjà crié sur leur enfant. Des violences à la fois physiques et verbal. Alors les experts vont nous dire que ça a des conséquences catastrophiques sur l'enfant. Quand on est parent, on relativise quand même un peu tout ça. Mais dans les textes, effectivement, la fessée, c'est interdit. Il y a d'autres façons de faire que de frapper son enfant pour lui faire comprendre les choses. Est-ce que vous comprenez quand même qu'il y a de la résistance chez certains parents?
C'est toujours l'hypocrisie française, hein, c'est une marque de fabrique. On a l'ASE. avec des enfants en déshérence.
Oui.
On a l'enfance maltraitée, des enfants qui sont battus, qui sont affamés.
On a les enfants violés dans le périscolaire.
Des enfants dans le périscolaire qui sont violés. On a un taux d'inceste absolument hallucinant. Et tout ça est mis sous silence. C'est même pas grande cause nationale. C'est-à-dire que tous les experts et tous les spécialistes et tous les gens qui sont dans ces métiers-là, les pauvres, je les plains. Vraiment, je les soutiens. C'est horrible pour eux. C'est vraiment terrible. L'ASE étant le problème numéro un. Où les enfants sont livrés à eux-mêmes à 17 ans.
On avait reçu l'auteur du livre La Fabrique du Malheur. Ouais.
Voilà, c'est insoutenable. C'est insoutenable. On a ça, ce drame français. Et puis à côté de ça,
est-ce que tu as mis des fessées à tes enfants?
Bien sûr. Mais bien sûr.
Mais des fessées.
Que quand ils faisaient les idiots et que des fois on était débordé tombé, et que t'en peux plus.
Attention, il y a moins de 6 ans parce qu'au niveau de la prescription, c'est 6 ans. Mais hein, si tu veux pas qu'on vienne te chercher.
En fait, je m'en fiche totalement.
Voilà, c'est ça.
La preuve, le réel. Le réel, c'est la preuve. C'est-à-dire que moi, j'ai deux fils qui ont 40 et 38 ans, qui sont heureux, qui aiment leur maman et leur papa et qui sont épanouis. Et donc, il faudra prouver. Moi, j'ai envie de dire, prouvez-moi qu'une petite fessée de temps en temps.
Non, mais voilà. La fessée.
Voilà.
Fait.
Prouvez-moi qu'une petite fessée, alors qu'on laisse les enfants battus sous silence, en aidant
si
même
pas. Je suis en train de dire, foutons la paix. Mais bien sûr. À ces parents-là, il y a des retenues vraiment
très tendres. Sandrine, alors, qui a reçu des fessées déjà? Sandrine, est-ce que tu étais une enfant turbulente ou pas?
Est-ce que certains en reçoivent encore, peut-être?
Alors. Ah ouais, bah, commence pas.
Mais entre adultes, consentant, c'est permis.
Antoine, est-ce que tu as reçu des fessées? Ben,
évidemment. Mais surtout, attends, pour
donner. Ah oui, évidemment, c'est une évidence.
Mais tout s'explique.
Attendez, Antoine. C'était l'échelle des peines, tu vois. Ouais. L'échelle des peines familiales. T'avais la petite punition, etc. Et c'était, attention, si tu passages.
Oui, mais c'est pas parce que ça se faisait avant que ça doit se faire maintenant.
Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut évidemment du discernement. Un gamin qui prendrait des fessées tous les jours, c'est pas entendable, etc. Mais comme peine maximum, dans l'échelle pénale familiale, dans l'échelle pénale éducative, elle est nécessaire. Et aujourd'hui, t'as des enfants qui disent à leurs parents, t'as des patients, t'as pas le droit de me mettre une fessée, gna gna gna. Et donc, on a tué une forme d'autorité. Je pense vraiment, Sandrine, que c'est très comparable à une politique pénale.
Je suis là pour représenter la justice.
Oui, c'est ça. Non, pas au GG. Hein.
Vas-y.
On n'a pas pris d'avocat.
Depuis 2019, la loi interdit les violences éducatives. C'est d'accord. Vrai. Donc la fessée n'est plus considérée comme un moyen d'éducation légitime.
Et quand violence, tu dis d'ailleurs physique et verbale aussi.
Psychologique, oui.
Psychologique.
Quand tu dis il y a fessée, c'est pas possible parce que à quel moment tu vas modérer au niveau de l'intensité de la fessée, etc. Il y a des expertises psychologiques qui disent que une fessée. Plusieurs, ou une, ne serait-ce qu'une seule, ça peut à un moment donné aggraver le côté anxieux de la personne, donc
les
de l'enfant,
et pareil pour l'agressivité.
Moi, je vais
faire
l'avocat.
Mais attends, je termine. Et c'est pas parce que nous, on en a reçu quand on était petit. Bon, tu vois, il y a plein de choses qui se faisaient à notre époque, d'accord? On parle de Gérard Depardieu, etc., et tout, avec ses propos graveleux, tout ça. Et aujourd'hui, c'est plus toléré. Donc, comment tu veux que la justice, tu parlais de preuves, comment tu veux que la justice, elle puisse déterminer qu'il y a eu qu'une fessée qui finalement, elle a pas fait grand mal, elle a permis de corriger certains traits, et d'autres qui finalement,
est-ce qu'il fallait l'inscrire dans la loi? Je suis d'accord avec toi, en tant que père, je préconise pas la fessée comme méthode éducative.
Comme une règle.
Ni le fait de crier sur ses enfants, etc.
Tu peux éduquer sans violence.
Dans la mesure possible, effectivement, de pas crier sur ses enfants. Puis malheureusement, parfois, les parents peuvent être exaspérés, écrits, ou donnent une petite tape, parce que par réflexe. Néanmoins, fallait-il faire une loi sur ça, déjà?
Oui, parce qu'il y a eu des abus. Il y a eu beaucoup de maltraitance.
Non, mais là, je te parle pas.
Je termine.
Je parle pas bien sûr des maltraitances qu'il faut les combattre.
Oui.
Et deux, effectivement, comme le dit Zora, on peut effectivement culpabiliser ses parents, mais quand on voit chaque jour quand même les dysfonctionnements de la surveillance,
c'est pas le même débat, de la maltraitance des enfants.
Olivier. Quand tu vois dans le périscolaire géré par une autorité publique, on a laissé faire des choses abominable. Et chaque jour, il y a de nouveaux témoignages.
Non, mais tu débordes, là. Ce n'est pas le sujet. Là, on parle des violences intrafamiliales.
J'aimerais bien qu'on se mobilise plus pour ça et qu'on laisse peut-être les parents gérer leur affaire.
La loi dit que... Mais sauf que la loi, le peuple... Alors, si je peux m'opposer à toi, je peux dire que le peuple dit qu'il y en a marre de laisser aussi les violences s'installer et de fermer
bien
les
sûr.
Yeux.
Mais donc, alors, excuse-moi, regarde.
Pourquoi on écouterait la loi?
Si tu veux qu'on légitime la fessée, tu veux autoriser combien de fessées par an? Non, mais dans ces cas-là, on en est là.
Non, mais on n'était pas obligé de légaliser. Enfin,
alors, attendez, je voudrais qu'on écoute.
Il
n'y
a pas d'exemplarité de l'État sur la violence.
Pierre, bonjour.
Oui, ça, oui.
Il n'est pas exemplaire.
Ça, je te rejoins amplement.
Bonjour.
Pierre, bonjour, bienvenue.
Bonjour,
Pierre de
Toulouse. Bonjour, bonjour l'équipe.
Bonjour Pierre.
Commercial, est-ce que, je ne sais pas, vous avez encore des enfants en âge de recevoir une fessée ou non?
Oui, j'ai un enfant de 3 ans, bientôt 3 ans et demi, et j'ai une petite de 5 mois.
Et alors, vous mettez une petite fessée au suite de 3 ans?
Moi, je suis totalement de la team, je crois que c'est Zora qui est là.
Oui.
C'est Zora et puis j'ai plus le prénom.
Et moi, Antoine aussi, je suis plutôt.
Et Antoine, pardon, je suis désolé, Antoine.
Pas de soucis.
En fait, moi, mon petit de 3 ans et demi, en ce moment, il est totalement dans l'âge, vous savez, de la confrontation, du test, en fait. Et bah, il m'arrive. Alors, c'est clairement pas systématique. Ça a dû m'arriver 3-4 fois en 3 ans et demi une petite tape sur les fesses, parce que là, il a vraiment poussé le bouchon un peu trop loin. Une petite tape sur les fesses et puis au coin, et puis tu vas aller te calmer dans ton coin. Et c'est pas pour autant que ça en fait un enfant traumatisé.
Mais que vous croyez, vous verrez après si malheureusement vous continuez à perpétrer toutes ces fessées, vous allez voir que ça peut engendrer de l'agressivité et de l'anxiété.
Mais calmez-vous, s'il vous plaît, c'est pas une grosse fessée. Ouais. Une petite tape sur les fesses, déjà, c'est pas une grosse fessée. Et puis deuxièmement, moi, ça me fait rire, ce pays qui marche une fois de plus sur la tête, où en fait, on nous enlève, nous les parents, tout moyen, entre guillemets, éducatif et de entre guillemets, et d'autorité de répression sur nos enfants. Et par contre, où on demande de la répression à des jeunes adultes qui n'ont pas reçu apparemment assez de petites fessées. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais l'autorité, elle peut s'imposer autrement que par la violence.
Olivier, regarde, qu'est-ce qu'ils font en Finlande?
Olivier, vous êtes parents, Olivier, vous aussi. Bah, on commence par le dialogue. Et bah, quand le dialogue, il passe pas.
L'échelle des peines.
Et quand le dialogue, il passe pas, qu'il continue sa bêtise, et ben, on parle un peu plus fort. Et quand vraiment ça passe pas, et que là, c'est une grosse bêtise, parce que moi, je parle en connaissance de cause, j'ai une petite de 5 mois, et mon petit, voilà, et en ce moment, il y a une petite, je sais pas si c'est de la jalousie ou quoi, mais des fois, il a tendance à s'en prendre un peu à sa petite sœur.
Oui,
et quand il est un peu violent avec sa petite sœur, bah, c'est la petite tape sur les fesses. Mais c'est normal, en fait. C'est comme ça que j'ai été.
Non, mais Pierre, l'État veut cadrer. Attendez, le pire, c'est que l'État veut cadrer.
Cadre déjà.
L'État cadre la fessée, mais par contre, il est absolument absent sur la violence faite aux enfants. C'est ça qui est dingue. Donne des leçons aux parents quand toi, t'es irréprochable. C'est-à-dire que toi, tu découvres, comme Français, dans la société, des choses immondes, incroyables, des trucs hallucinants. Ouais,
l'État n'est pas non plus responsable des violences intrafamiliales.
Mais les défaillances, des signalements, les absences, les dénis, etc. C'est l'État. Je suis désolé quand tout le circuit dysfonctionne et qu'on découvre l'horreur. Et toi, on te dit, tu dois être exemplaire en tant que parent, et que même une fessée, c'est illégal. D'accord? Alors moi, je pourrais accuser l'État, je pourrais faire un procès à l'État pour tous ces enfants abandonnés entre les mains de criminels et de gens violents, et à qui on ne porte jamais secours.
Ah ben, l'État a déjà été condamné pour ça.
Le nombre d'enfants qu'on retrouve avec des bleus qui sont signalés, et que ça passe crème, ça passe
Pierre,
à la frappe,
on va écouter
et on retrouve
Laurent,
l'enfant des années plus tard.
Laurent qui est agriculteur dans l'Indre.
Il reste où il est.
Bonjour Laurent.
Bonjour Gégé.
Alors vous avez entendu Pierre, il dit de temps en temps avec son petit là, c'est une petite tape pour recadrer. Et je sais pas, vous avez des enfants vous aussi?
Oui, exactement. Moi je suis complètement d'accord avec Pierre. Moi j'ai deux filles là qui ont maintenant 25 et bientôt 30 ans.
Vous leur collez des fessées encore?
Bah non, ça c'est fini.
Ah ben voilà.
Quand on disait le traumatisme plus tard, moi je me retrouve pleinement dans le discours de Pierre. Évidemment qu'à un moment donné, c'est un degré. C'est pas une éducation en soi de faire de la fessée. C'est un degré. Et à un moment donné, quand on est sur les 3, 5, 6 ans, et bien à un moment donné, c'est un acte. Mais à un moment jamais voulu. On est très fusionnels en plus avec
mes filles. Mais ça n'a rien à voir avec lesquelles vous envoyez.
Et s'il vous plaît.
Elles n'ont pas été perturbées, c'est ce que vous dites.
Ah non, et je peux vous dire que je suis en âge bientôt d'être grand-père. Mais moi, si elles appliquent la même règle que moi, eh ben, il n'y aura pas de problème. Je les conseillerais même. Et je peux vous dire que moi, si je les garde en tant que grands-parents, si elles me les mettent, ça sera ma règle aussi à moi. Mon père a été comme ça.
Et les enfants et vos filles accepteront?
Alors, il faut s'adapter aux enfants.
Je leur demanderai leur avis. Si elle ne m'y oppose pas, et oui, j'appliquerai cette règle. J'ai énormément d'amis qui sont de notre âge. Ils ont tous fait comme ça.
C'est un truc de garçon, là, Pierre et Laurent, quoi, en fait. C'est un truc.
Mais d'ailleurs, dans l'étude, il est démontré que c'est plus les pères qui donnent des fessées que les mamans.
Attendez, on a Marion qui veut intervenir. Marion Delain, bonjour, Marion.
Bonjour à tous.
Vous avez entendu Pierre et Laurent. Qu'est-ce que vous en dites, alors?
Ben alors, moi j'en dis que quand j'étais petite, j'ai mes parents qui nous mettaient des fessées. Alors c'était à l'occasion, hein. Quand ils en avaient marre, quand ils avaient déjà crié plusieurs fois et tout. Je me rappelle donc on avait très peur. Enfin en tout cas pour ma part, j'avais très peur quand j'entendais mon père monter l'escalier en bois là qui arrivait. Vous savez quand on allait en ramasser une. Honnêtement, ça n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire que c'était par la peur, on arrêtait ponctuellement, mais après, si on voulait recommencer, on recommençait. Et j'ai pas voulu reproduire ce schéma-là avec ma fille.
Très bien.
Donc voilà.
Par ailleurs, et ça s'est bien passé. C'était tout dans l'incarnation de l'autorité.
C'est encore mieux, même, j'imagine.
C'était dans le verbe, quoi, en fait, Marion.
C'est ça. Et puis même dans les actions. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, stop, tu t'arrêtes, ça suffit. Maintenant, tu vas dans ta chambre un moment. Depuis qu'elle est née, je me suis beaucoup renseignée sur le fonctionnement des enfants et tout ce qui est neurosciences. Et on sait maintenant que la peur qu'engendre une fessée ou ce genre de choses fait que il y a des diffusions d'hormones de peur et ça empêche l'apprentissage.
Mais c'est pas... Marion, je vous remercie pour ça. Parce que
les boomers, est-ce qu'il y a une génération d'abrutis?
Tant mieux que Marion ait ce mot de la fin en disant que oui, on peut éduquer sans violence. Et je vais juste rappeler ce qu'encourent Pierre et Laurent. Ils encourent 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Merci Pierre, Laurent, Marion. Vous aurez conclu la discussion. Bonjour Charles Magnan.
Bonsoir. Jet lag visiblement. Salut les GG, salut à tous. Bah tiens, c'est passionnant ce débat sur la fessée dans un instant. On va le poursuivre tout à l'heure, ce sera à 13h30.
On peut rester si tu veux.
Prendre 16 pour participer parce que ils arrivent dans un instant. Jacques Legros, Fred Hermel, Karine Galli. Avec eux, on va aussi parler évidemment voiture, hein, Stellantis qui ne sortira plus de voiture neuve à Poissy. En matière d'automobile, est-ce que vous êtes encore prêt à acheter français ou est-ce qu'il faut acter notre défaite? C'est fini, les voitures et les marques françaises, il y a encore quelques décennies.
On achète en fonction du porte-monnaie, en fait.
Bah oui, mais avant, on était fiers de rouler français.
C'est vrai.
Aujourd'hui,
On avait même un attachement particulier à une seule marque. C'était soit Peugeot, exactement. Soit on était Renault.
J'ai jamais été, moi.
On peut acheter français et pas manger français.
C'est vrai.
T'as vu Malaguna.
On va parler de notre modèle social. 56% des Français reçoivent plus d'aides qu'ils ne payent d'impôts et de taxes. C'est ce que nous dit l'INSEE. Notre modèle social est-il injuste? Et puis Emmanuel Macron qui propose une journée sans connexion, cap ou pas cap, ça aussi, on va en débattre. Mais je sais ce que vous prenez. C'est le tu préfères.
On va y aller d'ailleurs.
Ça va être le débat star.
Attention.
Entre les deux stars de nos salades d'été, mozza ou feta?
Mozza.
Feta.
Feta. Ah non.
J'arrive pas à choisir.
Il est dur.
Faut changer.
Ah non, c'est le principe du tu préfères.
Je ne peux pas. Je réfléchis à bien sûr.
Attention parce que t'as mozza fumée, t'as mozzarella, t'as bouffala.
Mozzarella, ça n'a pas beaucoup de goût.
Non, ça n'a pas de goût.
Non, mais faut prendre des bonnes mozza.
Non, mais très bonne. Non, mais j'aime bien aussi. Mais je trouve que la feta.
La feta, c'est plus goûteux.
Voilà. C'est plus relevé.
Puis c'est salé.
Tu mets de l'huile d'olive dessus.
Voilà.
Allez, mozza ou feta, 32-16 pour réagir. Avec Charles. Durant 3 heures.
Oui. RMC, midi 15h, Estelle Midi.